Oa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Ouagadougou, 19h30 à Bangui. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Nikki Haley, représentante des États-Unis à l'ONU, appelle à l'organisation d'élections en RDC pour 2018. Le fils du président de la Guinée équatoriale condamné à Paris.
La législation internationale, la législation française sur le blanchiment, qui est récente, permet aux juges de poursuivre les auteurs de ce blanchiment, les complices, et de saisir les biens. C'est ce qui s'est passé.
Le Burundi devient le premier pays à se retirer de la Cour pénale internationale. La Catalogne a proclamé son indépendance. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, Nikki Haley a demandé que les élections soient organisées en 2018 en RDC si le pays veut continuer à bénéficier du soutien de Washington et de la communauté internationale. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU l'a dit vendredi à Kinshasa, la commission électorale nationale. La diplomate américaine s'est également entretenue avec des délégations de la conférence épiscopale nationale indépendante, de l'opposition ainsi qu'avec le président Kabila. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les élections doivent se tenir en 2018. Au cas contraire, la République démocratique du Congo ne doit pas compter sur les États-Unis et la communauté internationale. C'est en ces termes que Nikki Haley a conclu sa rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante. La diplomate américaine a par ailleurs demandé à toutes les parties de pouvoir participer à ce processus et au président Kabila de dire clairement que les élections doivent être organisées en 2018. Peu avant la CENI, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU s'est entretenue avec une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques lui ont dit attendre de la communauté internationale un appui dans le sens de ce que le peuple congolais attend, c'est-à-dire les élections dans un meilleur délai. Le communiqué de la CENCO publié à ce sujet indique par ailleurs que les prélats catholiques ont dit à la diplomate américaine de demander clairement au chef de l'État un engagement explicite de ne pas se présenter comme candidat aux prochaines élections. Nikki Haley a par la suite échangé avec Félix Tshisekedi, Eve Bazaïba, Vital Kamerhe et Pierre Lumbi comme représentants de l'opposition. « Nous avons défendu le même point de vue par rapport à la sortie de crise dans notre pays », s'est contenté de dire Eve Bazaïba après cet entretien. Pour finir, la diplomate américaine a échangé en fin d'après-midi avec le président Kabila. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Théodorant Obiang, fils aîné du président de la Guinée équatoriale, a été condamné à Paris à 3 ans de prison avec sursis pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Théodorine Obiang a également écopé d'une amende de 30 millions d'euros et la cour a ordonné la confiscation de ses biens, dont un hôtel particulier de 100 pièces à Paris. L'enquête, suite à des plaintes de Transparency International et l'ONG Sherpa, avait mis au jour l'ampleur de son patrimoine. L'ancien ministre, promu vice-président, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de blanchiment et de corruption. Les sommes blanchies en France sont estimées à 150 millions d'euros. Les juges ont pointé la complaisance de la Société Générale, estimant que ces faits n'auraient pas été possibles sans l'intervention de la filiale équato-guinéenne de cette banque. Ils ont également étrillé la Banque de France, par laquelle ont transité des dizaines de millions de dollars et qui a joué un rôle déterminant dans les acquisitions de Théodorine Obiang en France. Pour Transparency International, il faut à présent mener le combat de la restitution des avoirs aux populations qui ont été spoliées.
En Centrafrique, les députés ont interpellé le secrétaire général de l'ONU pour demander que la MINUSCA se mobilise davantage contre les bandes armées qui ravagent le pays. Antonio Guterres achève ce vendredi une visite de 4 jours en RCA. Il a plaidé à plusieurs reprises pour un renforcement des capacités en hommes et en moyens opérationnels de la MINUSCA, dont le mandat arrive à expiration le 15 novembre 2017. Le Burundi est devenu le premier pays africain à quitter la Cour pénale internationale un an après avoir notifié son départ de l'institution judiciaire à l'institution judiciaire. Ekiabadou.
D'après la Cour, seul tribunal permanent qui juge les crimes de guerre, le retrait du Burundi prendra effet le vendredi 27 octobre. Ce retrait n'affecte pas la compétence du tribunal en ce qui concerne les crimes qui auraient été commis pendant la période où il était un État en partie, a précisé le porte-parole de la CPI. Fatou Bensouda, procureur général de la Cour, entend donc poursuivre son enquête préliminaire lancée en avril 2016 à la suite de rapports de meurtres, emprisonnement, torture, viol et autres formes de violences sexuelles, ainsi que des cas de disparition forcée. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en 2015 sa candidature à un troisième mandat qu'il a obtenu après une élection boycottée par l'opposition. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à fuir le pays. Créée en 2002, la CPI, qui compte désormais 123 États membres, a souvent été critiquée par certains pays qui prétendent qu'elle cible injustement les nations africaines.
Au Kenya, l'opposition a appelé ses partisans à rester à l'écart du scrutin organisé demain dans 4 comtés de l'ouest du pays où l'élection présidentielle n'a pu avoir lieu hier, jeudi, en raison des violences. Malgré les appels à la retenue des deux camps, des affrontements violents avec la police ont eu lieu hier dans de nombreux bastions de l'opposition où les frustrations et le sentiment de marginalisation ont été exacerbés depuis des années. Une délégation gouvernementale sénégalaise et une faction de rebelles casamançais se sont réunis cette semaine pendant 3 jours à Rome pour poursuivre les négociations de paix sous l'égide de la communauté catholique de Santé Egidio, médiatrice dans le conflit. Située au sud du Sénégal, la Casamance est confrontée depuis décembre 1982 à la rébellion armée du mouvement des forces démocratiques de Casamance qui réclame l'indépendance. Les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, ont demandé l'annulation de la procédure d'instruction de l'ensemble du dossier en raison de contradictions et de la violation des droits de la défense. Le général Diendéré, ancien patron du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite ayant perpétré le putsch, et 106 autres personnes, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général Djibril Bassolé, comparaissent depuis mercredi à Ouagadougou pour la confirmation de leur chef d'inculpation. Et puis toujours au Burkina, la justice souhaite entendre l'ex-premier ministre Isaac Zida sur la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait fait 33 morts. La police égyptienne a abattu 13 terroristes lors d'une opération dans le sud du pays, une semaine après des affrontements meurtriers entre forces de sécurité et insurgés. Le ministère de l'Intérieur a précisé que plusieurs armes ont été saisies, dont 7 fusils automatiques, dans une ferme qui servait de centre d'entraînement et de recrutement. Et puis cette peine exemplaire en Afrique du Sud pour 2 blancs qui avaient tenté d'enfermer un noir dans un cercueil et menacé de le brûler. Les 2 fermiers qui avaient plaidé non coupables ont écopé de peines de 16 et 19 ans de réclusion. L'affaire qui a suscité un grand intérêt en Afrique du Sud illustre la persistance des tensions raciales 23 ans après la fin de l'apartheid.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le Parlement de Catalogne a adopté vendredi une résolution déclarant la région État indépendant sous la forme d'une république, une rupture avec l'Espagne à laquelle Madrid a riposté en mettant la région sous tutelle. Les précisions de John Linden.
Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a immédiatement réagi au vote en promettant sur Twitter de restaurer la légalité en Catalogne. À Barcelone, les élus et quelques 200 maires indépendantistes entonnaient pendant ce temps l'hymne nationaliste en criant « Vive la Catalogne ». Mais la déclaration d'indépendance va à l'encontre des souhaits d'une grande partie des Catalans. Lors des dernières régionales en 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,8% des suffrages. La résolution a été adoptée en l'absence de l'opposition qui avait quitté l'hémicycle par 70 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions. Quelques minutes plus tard, le Sénat espagnol a voté en faveur de la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution qui permet de mettre sous tutelle la région un événement également sans précédent en Espagne depuis que la démocratie a été rétablie en 1977. Le président catalan Carles Puigdemont a appelé les Catalans à rester sur le terrain de la paix et du civisme. Les États-Unis ont immédiatement réagi à cette actualité en affirmant que la Catalogne fait partie intégrante de l'Espagne.
Et puis Londres a estimé aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU devait imposer des sanctions à la Syrie, dont le régime vient d'être désigné dans un rapport des Nations Unies comme responsable de l'attaque au gaz sarin sur la ville de Khan Cheikhoun. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
La bourse d'Abidjan reste attractive en 2017. Après l'admission de cette société en 4 ans, elle est aujourd'hui la 6e place financière d'Afrique, au grand bonheur de son directeur et donc aussi à Menouvé. Avec une progression cumulée de 88% de ses indices depuis 2012, la Banque régionale des valeurs mobilières représente également 11% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une zone comptant 90 millions d'habitants. Le marché national de la farine est en pleine effervescence au Cameroun. Les derniers grands meuniers nationaux continuent de réagir après l'arrivée du Singapourien Olam en 2011. Après un investissement de ce dernier de 60 millions de dollars pour construire une minoterie, plusieurs sociétés ont riposté en augmentant leur capacité de production journalière ou en rénovant leurs installations à coups de milliards de francs CFA. Dans la même lancée, Dieudonné Kamdem, fondateur du groupe Sadipin, a décroché un financement de 9,9 milliards de francs CFA pour acquérir une nouvelle ligne de transformation de blé. En 2016, son usine, dont la capacité journalière d'écrasement est de 360 tonnes, s'arrogeait 9,5% du marché camerounais. Présent dans la production de sel, la fabrication de produits cosmétiques et d'emballage, la vente en gros, la grande distribution et l'immobilier, le groupe a reçu l'année dernière plus de 3 milliards de francs CFA du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS pour bâtir une usine de production de détergents dans la zone industrielle de Bassa à Douala.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Départ du Tour cycliste du Burkina Faso.
Tout à fait, 30e édition, la première étape Koulbila-Tenkodogo, longue de 139 km, a été enlevée par l'Ivoirien Abou Sanogo. Premier maillot jaune, temps mis, 3h37 minutes et 45 secondes. Il a devancé le Burkinabé Seydou Bamogo au sprint final. Seydou Bamogo qui est à 1 seconde du maillot jaune. Deuxième étape ce samedi, Garango-Zorgo, longue de 95 km.
J-1 avant la finale aller de la Ligue africaine des champions.
Arrivé à Alexandrie mercredi soir, le WAC de Casablanca fera face à Al Ahly demain à Borg El Arab. Match retour prévu une semaine plus tard à Casablanca au stade Mohamed V.
Tennis, on connaît l'affiche du Master de Singapour.
Effectivement, Caroline Garcia a décroché son ticket pour les demi-finales du Masters de Singapour après la victoire d'Elina Svitolina contre Simona Halep ce vendredi 6-3, 6-4. Garcia affrontera Venus Williams en demi-finale. Dans l'autre demi-finale, la Tchèque Karolina Pliskova sera face à Caroline Wozniacki ce samedi.
Et puis, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Clippers de Los Angeles ont enchaîné une quatrième victoire consécutive, synonyme d'un des meilleurs débuts de saison de leur histoire, en arrachant la victoire sur le parquet de Portland 104 à 103 jeudi. Les Celtics de Boston continuent de reprendre des couleurs. Après deux défaites d'entrée, ils ont signé une troisième victoire consécutive à Milwaukee, 96-89. Après trois défaites pour commencer la saison, Chicago a signé sa première victoire en venant à bout d'Atlanta, 91-86. Pour son retour à Sacramento, DeMarcus Cousins n'a pas fait de sentiment et conduit la Nouvelle-Orléans à la victoire 114-106.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Retour sur la visite à Kinshasa de Nikki Haley, la représentante des États-Unis aux Nations Unies, appelle à l'organisation des élections dans ce pays en 2018. Écoutons quelques réactions avec ce reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM.
So our reason for coming to Seni is because they're a very important body.
Donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et le message a été clair que si les élections ne sont pas tenues en 2018, eh bien la RDC ne pourrait pas compter sur l'appui de la communauté internationale et de la communauté des États-Unis d'Amérique. Il est donc important que ces élections se tiennent en 2018.
C'est sur ce ton ferme que Nikki Haley s'est adressée à la presse concernant le processus électoral, avec à ses côtés le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ensemble de son bureau, au sortir des discussions qu'ils ont eues. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a par ailleurs appelé à l'implication de tous les partis politiques et du président de la République pour tenir ce délai de 2018.
Et cela ne sera possible que si toutes les parties prenantes aux élections donnent leur appui au processus. Il s'agit donc des évêques qui doivent également soutenir que les élections se tiennent en 2018, mais également les partis politiques. Mais le président de la République doit également dire que les élections doivent être organisées en 2018. Ce n'est que la seule voie issue pour la tenue des élections libres, c'est que toutes les parties prenantes y mettent la main à la pâte.
Partisan du départ de Joseph Kabila au 31 décembre 2017, l'opposition qui accuse le président de la République d'avoir torpillé l'accord de la Saint-Sylvestre affirme avoir émis sur la même longueur d'onde que la diplomate américaine concernant la sortie de crise en République démocratique du Congo. Réagissant aux propos de Nikki Haley à la CENI, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, rappelle que Mme Haley ne peut pas parler au nom de toute la communauté internationale et que seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à fixer une date pour les élections.
Madame Nikki Haley ne représente pas la communauté internationale. La communauté internationale est représentée par les Nations Unies. Elle est ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, donc elle représente un pays au sein de la communauté internationale. S'agissant du calendrier des élections, ceci ne relève pas de la compétence du gouvernement congolais ni du gouvernement américain. Donc la volonté de Madame Nikki Haley n'a rien à voir là-dedans. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui nous dira si elle peut organiser les élections en 2018.
Le processus électoral et la mission de la MONUSCO ont également fait l'objet d'un tête-à-tête de près de deux heures entre le président Joseph Kabila et Nikki Haley. Rien n'a filtré de ces échanges. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, a été condamné aujourd'hui à Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. C'est le premier jugement français dans l'affaire des biens mal acquis, déclenché par une plainte des ONG Transparency International et Sherpa. Morgane Guériec a joint maître William Bourdon de l'association Sherpa.
Oui, c'est un aboutissement, et puis c'est aussi un verdict sans précédent, pas simplement en France, au-delà. Il fait changer l'espoir de Caen, que l'immunité de ces kleptocrates commence à s'effriter. Comprenons qu'il existe des outils juridiques pour rendre redevables ces kleptocrates quand ils investissent à l'étranger. La législation internationale, la législation française sur le blanchiment, qui est récente, permet aux juges de poursuivre les auteurs de ce blanchiment, les complices, et de saisir les biens. C'est ce qui s'est passé.
La peine vous satisfait-elle ?
Ce qui compte, c'est le fait que le tribunal ait rendu une décision extrêmement rigoureuse, diffuser une forme de message. Alors d'abord un message à l'attention des kleptocrates, des dignitaires qui utilisent leur pouvoir pour s'enrichir d'une main et appauvrir leur population de l'autre. Un message aussi à l'égard du système bancaire.
Alors le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis. Que va-t-il advenir de ces biens ? Les sommes détournées peuvent-elles être restituées ?
Alors le tribunal souligne qu'en l'état, le droit international et le droit français ne permettent pas de restituer les biens à un pays comme la Guinée équatoriale. Parce que si on restituait les biens, ça aboutirait à récompenser le délinquant. On ne va pas restituer à la famille Obiang, ce dont on les accuse, d'avoir détourné. Donc il faut inventer des mécanismes qui pour l'instant n'existent pas pour restituer les biens aux populations.
C'était Maître William Bourdon, joint à Paris. Écoutons maintenant la réaction du gouvernement de la Guinée équatoriale par la voix de Agapitumba Mokui, ministre des Affaires étrangères. Il est joint par Solange Niamoulissa.
La justice a fait son travail. Il n'y a pas eu une condamnation comme telle. Je suis content. Ça va beaucoup aider à améliorer la relation entre la Guinée équatoriale et la France. La France a toujours été un partenaire privilégié et important pour la Guinée équatoriale. Bien évidemment, cette question était un peu embêtante. Et d'après la décision de la justice, c'est l'information que nous avons maintenant, le vice-président n'a pas été condamné. Et pour les petits détails, je pense que ça va s'améliorer.
Quelle est la situation de l'hôtel de Foch que vous présentez comme un de vos locaux diplomatiques?
La Cour internationale a déjà statué sur ce point en disant que c'est le siège de notre diplomatie, c'est l'ambassade de la Guinée équatoriale. Et pourtant, cette ambassade a des privilèges comme tous les ambassades sur la base de la Convention de Vienne. Alors, même s'il y a eu une décision aujourd'hui, je pense que ça va se régler rapidement parce que c'est notre ambassade.
Dans la condamnation, on dit que cet hôtel sera saisi.
Oui, mais comme vous savez aussi, la Cour internationale aussi a statué en disant que l'ambassade doit être respectée à cause de l'immunité diplomatique. Je pense que ça va se régler parce qu'on ne peut pas saisir une ambassade.
C'était Agapitumba Mokui, ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Le Burundi s'est officiellement retiré de la Cour pénale internationale. Il devient le premier pays au monde à se retirer de cette cour. Pour la ministre burundaise de la Justice, les pays européens et d'autres puissances mondiales profitent de cette cour pour initier des changements de régime en Afrique. Mais pour le parti Frodebou, Front pour la démocratie au Burundi, ce retrait va favoriser l'impunité des crimes au Burundi. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kurunziza. Alors, comme vous l'avez compris, nous avons des petits problèmes techniques pour vous faire écouter ce reportage de Christophe Kurunziza. Est-ce que nous pouvons le diffuser ou faut-il que je passe à l'élément suivant ? D'accord. Alors, peut-être nous reviendrons sur ce reportage un petit peu dans notre prochaine édition. Je vais donc dès à présent vous parler de ce qu'il s'est passé ici aux États-Unis. 2891 dossiers déclassifiés sur l'assassinat de John Kennedy ont été publiés hier soir sur le site des Archives nationales américaines. Le 35e président des États-Unis fut assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. L'actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, a toutefois repoussé de 6 mois la divulgation de certains documents jugés trop sensibles. Que signifie pour les Américains la publication de ces archives? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à l'historien d'origine congolaise, Ngemi Yaha Lengi.
Pour les Américains, c'est seulement revoir l'histoire et l'histoire d'un président qui était très, très populaire, mais vraiment qui n'a pas servi tout son temps. Et la popularité du président Kennedy fait que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'était passé au G7 et pourquoi il était assassiné. Voilà.
Plusieurs semaines seront évidemment nécessaires aux experts pour éplucher les près de 3000 dossiers secrets. Mais y a-t-il des informations présentes dans ces archives déclassifiées qui ont déjà été révélées?
On parle un peu de son assassin qui était, soi-disant, je crois, au Mexique et qui aurait pu contacter, parler avec des gens de la Russie. Mais ces théories ont été avancées avant. Mais alors maintenant, ces archives vont nous donner des précisions si Oswald avait vraiment une connexion avec la KGB de la Russie. Voilà en bref, mais nous attendons toujours les autres détails.
Mais les experts sont frustrés parce que le président Trump a repoussé de 6 mois la mise en ligne de plusieurs centaines de documents jugés trop sensibles sur la vie de la CIA et du FBI notamment, selon des médias américains. Pourquoi, d'après vous?
Justement parce que les services de renseignement veulent s'assurer que s'ils avaient commis des bavures et que ces bavures-là ne seront pas connues du public surtout, que les services de renseignement n'aiment pas qu'on parle des erreurs qu'ils commettent.
Pensez-vous que ce report va à nouveau alimenter la théorie du complot plus d'un demi-siècle après l'assassinat de Kennedy?
Oui, mon cher Jacques, je crois que cette théorie d'un complot international ne finira jamais. Vu l'histoire de Kennedy, le problème avec la crise des missiles de Cuba, vous vous rappelez qu'en ce moment-là, on était en pleine période de la guerre froide. Donc, ces théories-là ne vont pas, en tout cas, être écartées si bientôt. Hein.
Il semblerait que ces archives contiendraient également des informations sur l'assassinat en 1961 du père de l'indépendance du Congo Kinshasa, Patrice Lumumba. Qu'en pensez-vous?
Moi, je m'attends à ce que peut-être qu'on ait un peu plus d'informations là-dessus parce que les États-Unis avaient déjà admis qu'ils avaient tenté d'assassiner Patrice Lumumba, mais ils n'avaient pas pu atteindre Patrice Lumumba. C'est pour cela, selon eux-mêmes, qu'ils avaient contacté Mobutu, qui alors avait arrêté Lumumba pour qu'il soit assassiné au Katanga. Donc, il y aura peut-être d'autres détails qu'on ne savait pas.
C'était le professeur et historien Ngemi Yalengi. Il était joint à New York.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Sims Loumani, à la console Souleymane Tarawale, au micro Clermont Rajibour. À Sival au monde aujourd'hui, pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voaafrique.com et notre page Facebook, bien sûr, restez avec nous. Tout de suite, l'Amérique et vous, présenté par John Lyndon.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.